Direct en jeu, la radio insolite. Je vais déclarer que c'est un rendez-vous d'amour, un rendez-vous que j'ai eu tout au long de l'année 2022. Et là, je me fais plaisir parce que je retrouve le grand Frédéric. Alors attention, ce n'est pas n'importe qui. Il est directeur adjoint, directeur général. Bonjour Frédéric.
Bonjour. Tous mes voeux pour cette nouvelle année.
Bonne santé avant tout.
Exactement. Ravi de vous retrouver. On vous a croisé de nombreuses fois cette année, en 2022. Y compris sur notre salon Porte de Versailles, où vous aviez fait un travail remarquable.
Ouais, tout à fait. Bah, je me suis fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Donc, directeur général, directeur adjoint de Filaposte ?
Directeur adjoint de Filaposte.
Parfait. Alors, première question toute simple, parce que tout le monde le sait dans toute la Terre. Qu'est-ce que c'est que Filaposte ?
Alors, Filaposte, c'est une direction à compétence nationale, pour prendre les termes postaux. Donc, c'est une direction au sein de la Poste, ce n'est pas une filiale, qui regroupe un certain nombre d'actifs. Le premier étant l'imprimerie des timbres qui se trouve à Boulazac à côté de Périgueux en Dordogne et qui produit l'intégralité des timbres pour le marché français, mais pas que d'ailleurs, puisqu'on produit aussi des timbres pour des postes étrangères. C'est aussi une direction qui est à Paris et qui a une boutique dans Paris qui s'appelle le Carré d'Encre et au travers de ses actifs qui anime l'écosystème assez ancien du marché de la philatélie, du marché de la collection postale depuis de nombreuses années. Qui est rythmé par des sorties de timbres à peu près toutes les semaines.
Une chose que je n'avais jamais remarquée avec Gilles, qui était le directeur de Filaposte jusqu'au 31 décembre, c'est qu'en fait, Filaposte est le premier imprimeur de marques d'affranchissement en Europe. C'est quoi une marque d'affranchissement ?
Alors en fait, on parle de marque d'affranchissement plutôt que de timbre, puisqu'en réalité, à l'imprimerie, une marque d'affranchissement, ça peut prendre plein de formes. Bien sûr, le timbre, c'est souvent l'usage le plus connu. On a aussi ce qu'on appelle des prêt-à-poster, qui sont des enveloppes sur lesquelles le timbre est directement imprimé sur l'enveloppe, qui sont souvent pour des envois en nombre. Mais ce sont aussi les étiquettes que vous pouvez trouver dans les distributeurs des bureaux de poste, qui vont être personnalisées à la volée en fonction de votre besoin. Mais le fond de cette étiquette doit être imprimé d'une certaine façon avec des éléments de sécurité, donc ça sort également de chez nous. Et puis ça peut prendre d'autres formes d'étiquettes pour du colis, pour le groupe. Ou d'autres types de supports comme Youpix, que vous connaissez peut-être, qui est une application qui permet de faire sa carte postale à partir de son smartphone. Donc cette carte postale est ensuite rematérialisée au sein de l'imprimerie. Et donc tout ça regroupe l'ensemble de ce qu'on appelle les marques d'affranchissement au sens large.
D'accord, donc ça c'est une activité qui occupe tout au long de l'année, c'est pas mal. Tous les ans, il y a, j'allais dire, une élection de Miss Timbre. Non, il ne faut pas exagérer, il y a l'élection du timbre le plus beau timbre de l'année.
Exactement, et on en est très fiers parce que ça rencontre une notoriété croissante chaque année. Donc en fait, on en est dans la troisième décennie de cette opération qui invite les Français à voter pour les plus beaux timbres. Alors il y a une trentaine d'années, c'était par courrier, donc les participations étaient forcément plus limitées. Puis avec l'arrivée d'Internet, on a développé un site qui, chaque année, est ouvert entre les premiers jours de janvier et fin mars, donc presque pendant une période de 3 mois, où vous retrouvez l'intégralité des familles de timbres qui ont fait l'objet d'une parution au cours de l'année 2022, de l'année antérieure. Et en l'occurrence, vous avez 8 catégories, et on invite tous les Français, qu'ils soient collectionneurs, philatélistes, tout simplement amateurs d'art, à donner leur avis sur tous les timbres qui sont sortis. Ils sont rangés par catégorie, bien évidemment, pour qu'on puisse comparer des univers comparables. Et à la fin, sont élus les plus beaux timbres de l'année, et en particulier le plus beau des plus beaux timbres de l'année en cours. Alors, on y est très attaché pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est très populaire. Pour vous donner une idée, on a dépassé les 100 000 votes l'année dernière, ce qui est assez significatif pour ce genre d'opération. Donc, on aime super bien battre un nouveau record encore cette année. Il y a un jeu concours, donc finalement on invite tout le monde à y participer parce qu'il y a quelques gains à la clé de ce jeu concours, mais c'est aussi une façon de récompenser les artistes avec lesquels on a travaillé au cours de l'année, et c'est ces artistes qui vont recevoir le prix sur scène ensuite lors d'une soirée qui a lieu au mois de juin. Et puis pour nous, d'un point de vue connaissance de nos clients, c'est quand même très intéressant de savoir ceux qui ont le plus plu, ceux qui ont le moins plu, et d'ajuster à la fois les choix graphiques, les choix thématiques pour répondre aux attentes du marché. Donc plus il y a de votants, plus on est intéressé par les réponses qui s'y trouvent forcément, parce que ça nous permet d'améliorer d'année en année le type de timbre que l'on fait.
Alors justement, les timbres. Alors, c'est les timbres, c'est les produits d'affranchissement. C'est surtout, comment dire, j'ai appelé ça un programme philatélique.
Alors exactement.
Qui est en décalage, hein, parce que y a un sacré temps d'avance qui est pris par rapport au
Tout à
programme.
fait. Alors, en fait, vous avez trois grandes familles de timbres, si on devait faire simple. Vous avez la Marianne, hein, qui est le timbre le plus courant qu'on peut rencontrer sur beaucoup de courriers. On a ce qu'on appelle les timbres adhésifs, qui sont souvent proposés sous forme de carnet de 12 timbres avec des thématiques qui changent tous les mois. Et puis, pour les collectionneurs, il y a le programme philatélique. Alors, le programme philatélique, contrairement à ce qu'on pense, est intégralement fait avec des timbres gommés, c'est-à-dire des timbres qu'on lèche. Hein. Souvent, on entend dire les gens, ah, mais il n'y a plus que des timbres adhésifs, il n'y a plus ces timbres qu'on pouvait lécher avant. Mais si, ça existe toujours. Mmh. Et typiquement, le programme philatélique n'est fait que de ces timbres gommés, donc traditionnels, et qui est régi selon des règles assez anciennes et connues le plus souvent des collectionneurs, mais qui méritent d'être connues plus largement. C'est-à-dire que, comme vous le dites, on reçoit à peu près 2 ans à l'avance des sollicitations de n'importe quel citoyen français peut émettre un souhait, remplir un dossier auprès de Philaposte et dit voilà, moi je suis de telle région ou je considère que telle personnalité sur laquelle j'ai travaillé ou je considère que telle thématique mériterait d'être sur un timbre. On reçoit plusieurs centaines de sollicitations par an qui sont analysées par le cabinet de Philaposte, qui va les filtrer selon un certain nombre de principes de parité, d'équité, de représentativité régionale, puisqu'on a obligation d'être sur un programme qui soit le plus fidèle à la représentation de la France à un instant T, aux représentations de la société. Et donc, toutes ces remontées sont triées, sélectionnées, écartées, si par exemple le sujet a déjà été traité quelques années avant, hein, puisqu'on veut avoir un programme le plus riche possible en variété de thématiques. Puis il est soumis à une commission philatélique qui se réunit 2 fois par an, qui est présidée par le président de la Poste lui-même, autour duquel il y a une commission de personnes, bien sûr issues de la Poste, mais pas seulement, de l'écosystème plus large, culturel, on va dire au sens très large du terme, et qui vont sélectionner les sujets qui leur semblent les plus pertinents à mettre dans ce programme. Et comme vous le dites, en général, ils se réunissent pour décider des timbres de l'année N plus 2, ou en tout cas à 18 ou 24 mois après cette décision. Donc le processus peut être très long entre le moment où quelqu'un a candidaté, où le dossier va être remonté lors de cette commission philatélique 2 fois par an, puis finalement va être retenu et imprimé. Alors pourquoi est-ce que c'est long encore après? Parce qu'en général, on s'assure que le timbre va correspondre à la date de sortie de ce timbre va correspondre à une date symbolique pour le D'accord. timbre, une date anniversaire, une date de décès, une date en rapport avec un lieu géographique, par exemple. En général, il va falloir qu'on travaille avec les ayants droit de la personne. Hein, on ne peut pas faire un timbre sans associer la famille, qui va le plus souvent nous donner des éléments graphiques en disant ben voilà, je souhaiterais qu'il soit traité de telle ou telle façon. Puis il va falloir travailler un artiste. Puis une fois que cet artiste a travaillé, les imprimer, puis les distribuer dans l'ensemble des bureaux de poste. Donc c'est un cheminement très long, qui parfois paraît effectivement très long, entre le moment où quelqu'un a déposé sa candidature, on va dire, et le jour où, le premier jour du timbre, puisque c'est comme ça qu'on le présente, le premier jour de ce timbre va sortir enfin dans les bureaux de poste. Voilà. Une cinquantaine de timbres, c'est à peu près la volumétrie qui est décidée sur chaque année. C'était un peu plus il y a une vingtaine d'années. On a considéré qu'il ne fallait pas augmenter de trop le nombre de timbres, ce qui est un sujet toujours très compliqué, parce qu'à la fois, on a beaucoup de sollicitations, on veut être le plus varié possible dans le programme, et en même temps, on sait que les collectionneurs qui sont fans d'avoir l'intégralité du programme, ça peut finir par représenter un budget significatif pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'on se limite à une cinquantaine de timbres par an.
D'accord, ok, là, c'est clair. Ce qui est important à enregistrer, c'est que n'importe qui peut déposer un dossier.
Je vous invite à le faire.
Il n'y a pas de problème. Alors justement, demain est un grand jour. Alors ce qui m'a un peu surpris, c'est que d'habitude, il y a donc la boutique de Philaposte qui s'appelle Carré d'Encre à Paris, qui accueille le timbre premier jour. Mais demain... on a un timbre qui sort en même temps à la mairie annexe de Nantes-Chantenay et à Schiltigheim.
Exactement. Ouais. Au centre sportif du nom de la personne qui va être timbrifiée demain. Donc effectivement, demain sort un timbre sur Nelson Mandela. Alors en réalité, le visuel de timbre a même été présenté, dévoilé lors d'un salon philatélique qui a eu lieu Porte Champéret au mois à l'automne, en présence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud d'ailleurs. Et ce timbre sera cette fois-ci mis en vente en premier jour, comme je l'expliquerai précédemment, dans deux lieux, Paris, d'une part, et effectivement à Nantes également, où on a eu une demande d'avoir cette possibilité sur les trois lieux, Paris, Nantes et Schiltigheim, pardon, d'avoir cette présence. Donc à Schiltigheim, en fait, ils ont un centre sportif Nelson Mandela, et donc la ville est très attachée à cette présence. À Nantes, ça se passera à la mairie annexe de Nantes Châtenay, qui est effectivement un établissement aussi qui porte les valeurs de Nelson Mandela. Alors pourquoi? Parce que vous savez que Nantes est aussi la ville historique de l'ancien maire de Jean-Marc Ayrault, qui est le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
D'accord.
Donc il y avait un vrai lien avec l'histoire de Nelson Mandela, forcément. Donc il y avait cette demande à ce que le timbre puisse sortir en premier jour à trois endroits différents, et ensuite sur l'intégralité de la France dès lundi prochain.
D'accord. Je pense que les gens vont se poser la question. En fait, Nelson Mandela, qui est prix Nobel de la paix, est décédé le 5 décembre 2013. Comment ça se fait que
Oui.
le timbre soit lancé en janvier 2023?
Alors, on n'aime pas trop sortir des timbres sur le mois de décembre traditionnellement. Ça nous pose des problèmes. Pourquoi? Parce que la particularité des timbres philatéliques, contrairement aux autres timbres, c'est qu'ils portent sur le timbre la valeur d'affranchissement. Et donc, sortir un timbre au mois de décembre suppose qu'il puisse avoir une durée de vie assez courte, puisque sa valeur d'affranchissement peut devenir caduque dès le 1er janvier de l'année suivante en cas de hausse tarifaire du prix du timbre. En l'occurrence, en 2013, en 2023, pardon, les timbres lettres vertes restent au même prix que l'année dernière, donc la question se posait moins. C'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui quel pourrait être le prix en 2024. Et donc sortir un timbre le 5 décembre voudrait dire que potentiellement son intérêt d'affranchissement ne marcherait que pendant 3-4 semaines. Alors, en réalité, ce timbre, il voyage avant tout dans les classeurs des collectionneurs, donc on pourrait le sortir en décembre. Mais comme on veut aussi qu'il voyage sur du courrier, c'est bien de le sortir en début d'année. Puis c'est un des très beaux timbres de l'année, et c'est vrai que lui donner un maximum de visibilité sur l'année, c'est aussi satisfaisant pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'il est particulièrement beau, et en tout cas c'est peut-être très subjectif, c'est que d'abord ce timbre, il a une particularité, c'est qu'il est imprimé en taille douce. Alors taille douce, c'est une des techniques d'impression particulière qui fait que un artiste va dessiner le timbre, et en l'occurrence l'artiste c'est C215, Christian Guémy, qui est un fameux artiste, street artiste très célèbre, avec qui on a déjà travaillé par le passé, puisqu'il avait fait un carnet pour la Croix-Rouge, il avait fait un magnifique portrait de Léo Ferré, et puis il est aussi connu pour avoir, j'allais dire, habillé quelques boîtes aux lettres de la Poste par le passé, par des dessins merveilleux, puisque c'est lui qui avait dessiné Simone Veil sur certaines postes, sur certains bureaux de boîtes aux lettres. Donc C215 est le premier artiste, mais ce timbre ensuite est repris par une deuxième personnalité qui s'appelle Elsa Quatelain, qui est une fameuse graveuse française, qui va quelque part interpréter le visuel en regravant ce timbre en négatif pour le permettre de le faire en impression taille douce. Cette taille douce, à peu près 40% du programme philatélique chaque année est fait de cette façon-là. Vous voyez que pour ce premier timbre, à la fois un célèbre artiste de street art, puis une graveuse, tout ça méritait que le timbre il ait une visibilité maximum et qu'il fasse partie des premières émissions de l'année 2023.
Oh, et puis il est chouette. Un timbre comme ça s'achète à l'unité, ça s'achète par planche.
Alors, les deux, on peut l'acheter à l'unité. En réalité, il va être proposé sous forme de feuilles, et effectivement des feuilles de 15 timbres, donc c'est assez proche d'un carnet de timbres de 12 timbres. Beaucoup de collectionneurs, en réalité, achètent la feuille complète parce que les bords de la feuille reprennent des informations complémentaires. Notamment sur le haut de la feuille, vous aurez Nelson Mandela avec son année de naissance et son année de décès, avec une citation, aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès, qui se trouve sur la bordure de la feuille. Donc c'est vrai que pour les collectionneurs ou pour les gens qui sont sensibles aux beaux-arts, cette feuille en elle-même est déjà un objet de collection qui peut être exposé, encadré. Et moi, je trouve que la feuille, dans sa globalité, a plus de, presque plus de, d'ampleur, je dirais, que le timbre tout seul. Mais les deux sont possibles.
Et un timbre avec le cachet premier jour, ça prend une valeur. C'est une pièce de collection, j'allais dire.
Alors, tout ce qui est rare, forcément plus de valeur. Donc, c'est sûr que si, en tant que collectionneur, vous vous déplacez sur l'une des trois villes vendredi matin et que vous avez le cachet d'oblitération, ce sera forcément plus rare que tous les autres timbres qui vont circuler ensuite sur du courrier. Donc cette rareté donne de la valeur. Après, si vous êtes un vrai collectionneur, il faut que vous ayez des amis et que vous ayez les trois cachets des trois villes. Mmh. Et là, vous avez une collection qui a une vraie valeur, puisque vous aurez trois oblitérations du même jour sur les trois lieux. C'est aussi en ça que, dans l'esprit des collectionneurs, c'est toujours passionnant d'avoir un premier jour qui n'est pas dans un seul lieu, mais dans plusieurs en France. Mmh. Et beaucoup s'échangent d'ailleurs ensuite les oblitérations, puisque vous ne pouvez pas vous cloner. Donc, en général, ce sont les clubs philatéliques qui s'organisent entre eux en disant « moi, je serai à Nantes, moi, je serai à Paris, et on fera des échanges ensuite. »
Oui, parce que moi, étant basé à Villeurbanne, je ne pourrais acquérir le timbre normalement que le 23 janvier dans tous les bureaux de poste, mais je ne pourrais pas avoir le timbre premier jour.
Sauf à venir à Paris ou à Nantes, oui. Ou à une des trois villes.
D'accord, non, j'ai bien compris.
Ce qui vaut d'ailleurs en général, et on ne le sait pas toujours, mais quand on fait un premier jour en province, d'avoir des queues parfois de plusieurs dizaines de mètres de gens qui ont pu traverser la France pour avoir le plaisir d'avoir cette oblitération.
Ah, ce sont vraiment des collectionneurs passionnés, quoi.
Oui, et contrairement à l'idée reçue, bien sûr, c'est un loisir plutôt senior, plutôt masculin, encore qu'il tente à se féminiser, mais qui n'est pas que senior, et on a aussi des actifs quand même qui s'intéressent à la collection. Je pense qu'il y a un regain d'intérêt à tous les objets d'art sous toutes leurs formes. Simplement, les gens ne collectionnent pas forcément de la même façon que le faisaient leurs parents ou leurs grands-parents. Donc certains vont choisir plus des thématiques ou coup de cœur. Mais on est toujours très surpris dans ces queues de découvrir que la population est plus hétérogène que l'idée préconçue qu'on pourrait se faire du philatéliste.
D'accord, ok, parfait. Que dire d'autre, tout est très clair au premier abord. Donc le timbre qui sort, on le rappelle, à Schiltigheim, qui sort à la mairie annexe de Nantes-Chantenay, et évidemment au Carré d'Ancre. Alors au Carré d'Ancre, je crois même qu'il y a une dédicace des deux artistes.
Exactement. Christian Guémy sera au Carré d'Ancre pour la dédicace. Et je crois qu'Elsa Quatelin sera présente également. Je dirais que là aussi, ça accroît à la fois l'intérêt, voire la valeur de la collection, puisque vous imaginez bien que si vous avez le timbre oblitéré du premier jour avec la dédicace des deux artistes, vous constituez par vous-même un petit objet d'art. C'est un peu tout l'intérêt d'ailleurs de ces collectionneurs qui se passionnent. Certains vont venir avec des enveloppes qu'ils auront préparées, vont coller le timbre, ou d'autres supports d'ailleurs. Mmh. Et puis, au travers des autographes qui vont être faits, ou les dédicaces plus exactement des artistes, vont constituer une œuvre d'art qui devient de fait unique, puisqu'elle est personnalisée sur place, dans la boutique du Carré d'Ancre, qui est rue des Mathurins, d'ailleurs je le rappelle, à Paris. Mmh. Très belle boutique que je vous invite, mais que vous connaissez déjà, à venir voir... parce que nous y vendons des timbres, c'est une boutique de la Poste, mais nous n'y vendons pas que des timbres, nous y vendons l'ensemble de l'univers de l'écrit.
J'ai vu qu'il y avait même des puzzles de timbres maintenant.
Exactement, on a sorti ça à l'occasion des fêtes de fin d'année.
J'ai trouvé ça très original.
En fait, ce ne sont pas des puzzles comme d'autres, ce sont des puzzles qui reprennent des timbres ou des blocs de timbres un peu iconiques. Mmh. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On s'est rendu compte finalement que l'un des sujets, c'est quand même la transmission de l'intérêt pour le timbre vers les plus jeunes générations. Les quatre produits que l'on a sortis, qui allaient de 54 pièces pour les plus jeunes jusqu'à 1000 pièces, reprenaient donc des très beaux timbres qui étaient sortis par le passé et ont connu un vrai succès auprès d'une population beaucoup plus jeune, parce que c'était finalement une idée de cadeau pour Noël. Mmh. Et donc une façon de parler du timbre sans forcément mettre l'objet qui est un peu fragile entre les mains d'enfants. Mmh. Et puis surtout, le puzzle répond à un même critère que l'intérêt du collectionneur, c'est de constituer petit à petit, avec des petites pièces, un ensemble qui fait un tout. Et finalement, une collection de timbres dans un classeur ou un puzzle, la démarche de construction est un peu la même.
Et oui, ça me rappelle ma tendre enfance, quand moi-même j'étais collectionneur. Oui.
Ben voilà.
Ok, comment est-ce qu'on fait pour retrouver tout ça? Il y a un site internet particulier où on peut retrouver toutes ces
Alors,
infos?
toutes les informations sont systématiquement sur le site du Carré d'encre dont je parlais, qui est un site internet qui donne toutes les informations sur les premiers jours, bien sûr pour demain, mais pour les semaines à venir. Donc, c'est un site qui donne un grand nombre d'informations. Et dessus, vous y trouvez aussi les coordonnées du service client de l'imprimerie qui peut répondre à tout un tas de questions. Vous pouvez y télécharger même un magazine, le Fil Info, qui donne pas mal d'informations sur la programmation des timbres ou sur tous les événements. Et d'une manière générale, de regarder ce qui se passe le vendredi matin au Carré d'Ancre, c'est pas mal parce que très souvent, le vendredi matin, vous avez des artistes qui viennent dédicacer le timbre qu'ils ont fait. Et selon la thématique qui vous intéresse, c'est toujours intéressant de passer le vendredi ou parfois le samedi, parce qu'il peut arriver que ça se passe le samedi également. Nous avions samedi dernier des sorties de deux blocs sur le Nouvel An chinois, en présence de l'ambassadeur de Chine d'ailleurs, et sur lequel l'artiste chinois qui avait dessiné les timbres dédicaçait toute la journée également. Voilà. Donc, regardez régulièrement le site du Carré d'Ancre, vous y verrez des événements, je dirais presque gratuits, parce que finalement, pour le prix d'un timbre, vous pouvez avoir une dédicace d'un artiste, et qui renvoie à tout un tas de sujets, de culture, de connaissances de notre histoire commune.
Voilà, bah le premier rendez-vous Filaposte 2023 est déjà fini. Je vous rappelle, demain, la sortie en un premier jour de l'effigie de Nelson Mandela, que vous retrouverez dans tous les postes de France et de Navarre, à partir du lundi 23. Merci Frédéric.
Merci à vous et à très bientôt.
Avec plaisir.